Bonsoir, bonsoir, vous écoutez Radio Campus et c'est l'émission Panthère Rouge qui commence, animée par Lise, Claire et Antoine aux manettes. Panthère Rouge reprend l'antenne en ce début d'année 2012. La première chose est bien sûr de vous souhaiter une bonne année malgré toutes les difficultés économiques, malgré tous les chamboulements écologiques, malgré l'agressivité des milices du capital. À Clermont, la police a donné le ton en assassinant Wissam dès le premier jour de l'année. La crise économique et financière n'en a pas fini et la domination des puissants se révèle et s'affirme de manière éhontée. J'insiste un peu sur les événements de La Gautière. Non seulement les policiers se sont acharnés jusqu'à la mort sur Wissam, mais ils ont utilisé sa mort pour établir un état de terreur. Un collectif s'est formé pour demander la justice et la vérité pour Wissam. Car la vérité aujourd'hui, c'est que la justice n'existe pas dans notre état. Je m'explique. Suite à la mort de Wissam, de nombreuses arrestations, comparutions immédiates se sont enchaînées. 7 dossiers par jour en moyenne. Exemple, un jeune, inconnu des services, a été condamné à 2 mois de prison ferme pour avoir caillassé un véhicule de pompiers, alors que les sapeurs-pompiers ne s'étaient même pas constitués partie civile. Hélicoptères, présence policière omniprésente, condamnation disproportionnée, injuste, tant de provocations et violences policières qui ne font qu'affirmer que les pauvres vont payer encore et toujours pour que ce monde injuste continue de tourner. Mais même si on est en plein milieu d'une crise du capitalisme qui rend les capitalistes plus déchaînés que jamais, on assiste aussi à des événements qui nous rassurent, nous confortent dans notre conviction que l'on peut dépasser le capitalisme. Ainsi, alors que les structures politiques traditionnelles se vident, des idées politiques se diffusent à travers le monde et font écho en chacun de nous. Nous sommes les 99%. Mais oui, mais c'est vrai, à New York, à Tokyo, en France et ailleurs. On voit aussi d'autres formes d'action non violentes apparaître. Suite à la fermeture de Mega Upload, des anonymes ont fait planter de nombreux sites, tels que des sites des majors ou des sites gouvernementaux, le site du FBI, de la Défense américaine ou encore de l'Élysée, de la justice française. Plus d'une trentaine de sites très importants avaient sauté vendredi dernier. Alors, c'est virtuel, ok, mais c'est sympa. Et ça présage de difficultés futures pour ces États de plus en plus distants de leurs citoyens. Aujourd'hui, nous avons rempli le studio d'invités. Guillaume et Thiago, avec qui nous parlerons du mouvement des indignés. Daniel, Jackie et Marc, du collectif pour un audit citoyen de la dette. Nous parlerons donc des indignés, de la dette publique, mais également du mouvement new-yorkais Occupy Wall Street que nous présentera Claire. Des discussions et des débats, mais pas que, puisque nos invités nous ont préparé comme mise en bouche une petite pièce de théâtre. Dance floor. Dance floor.
Voleur, joli cœur, blessure, écorchure, vainqueur en majeur. Yes, sir.
Yes, sir.
Thank you, sir.
Thank you, sir.
Thank you, sister.
Thank you, sister.
Thank you, sir.
Thank you, sir.
Thank you, sister.
Thank you. Muslim, rarissime,
Cinq sisters.
Thank you, sister.
Cinq sœurs.
Thank you, sir.
Cinq sisters.
Thank you.
Mon cher Premier ministre, je suis désorienté. Tous nos efforts sont vains, l'économie s'écroule, c'est à n'y rien comprendre, à y perdre la boule.
Monsieur le Président, il ne faut point fléchir. Rigueur et discipline sont toujours le nadir, aucune alternative ou sinon le chaos.
Monsieur le Président, n'écoutez pas ce sot.
Venez ici, madame. Entrez dans le débat.
Monsieur le Président, enfin, vous n'allez pas...
Croyez-vous, mon ami, qu'en un bordel pareil, on puisse se passer d'écouter des conseils?
Eh bien, monsieur, en prose ou en alexandrin, votre premier ministre est un fameux crétin. Non plus ténacité, mais pur entêtement, l'obsession de rigueur, à si mauvais escient, vous conduit au désastre. Et le peuple d'abord. Mais oublions le peuple. Je sais, c'est déjà fait. Et ne voyons les choses qu'en termes de budget. Sous ce seul point de vue, votre manœuvre est fausse. Tuant l'économie, garrottant la croissance, elle échoue par le fait de son intransigeance et se porte elle-même le coup le plus fatal puisqu'elle anéantit ses recettes fiscales. Formidable succès! Splendide réussite! Moins d'impôts collectés, c'est plus de déficit. Vous croyez colmater? Vous creusez plus profond. Cela n'est plus un trou, c'est une excavation. Ajoutez que l'Europe, unie, mais pour le pire, semble avoir décidé de s'auto-estourbir. Ces rigueurs conjuguées, funestes interactions, nous conduisent tout droit vers la dépression. Nous voyons à Bruxelles des esprits dévastés, le canon orthodoxe pieusement psalmodié. Voilà le commission, ce nouveau Saint-Office, imposant à chacun de porter le cilice. Vous êtes grand brûlé, C'est cela qu'il vous faut. Tout entier égorché, serré bien jusqu'en haut.
De l'ironie, madame, vous n'êtes pas à court, mais croyez-vous qu'on gère avec de l'humour, que la rigueur soit dure? Je n'en dis qu'en vient pas, mais le marché l'exige, et c'est donc notre loi.
Admirable talent, pour en si peu de mots, ramasser de l'époque le pire des fléaux. Le marché fait la loi. Il nous dit nos devoirs. À toutes ces demandes, il nous faut déférer, car la sagesse même a le son supposé. Le peuple souffrira, mais le marché le veut. Mais comment pouvez-vous vous soumettre à ce jeu? Demandez-vous, messieurs, pour qui vous gouvernez? À qui le politique a-t-il à s'adresser? Est-ce à des créanciers ou à ses citoyens? Où sont ses vrais devoirs? À qui doit-il le bien? J'ai peur à vous entendre que sens dessus-dessous, vos esprits, vos idées, désormais se dévouent à ignorer le peuple et servir la finance et du contrat social à faire déchéance. Vous ne gouvernez plus pour le corps citoyen et vous avez cessé d'être républicain, car l'unique devoir que vous reconnaissez ne va plus qu'à ceux-là qu'on nomme créanciers. Nébuleuse entité aux frontières incertaines, ce nom corps a pourtant consistance homogène. Son principe est l'argent, son ciment l'intérêt. Voilà le nouvel être auquel vous vous rendez. D'abord les créanciers, le peuple, s'il en reste. Voilà en résumé la trahison funeste où vous êtes tombé. Singulier marxisme, qui est la dictature du prolétariat, aura substitué celle de l'actionnariat.
Je réserve à plus tard de connaître la bête qui a dû vous piquer, je suppose, à la tête. Voudriez-vous ici redescendre un instant pour m'aider à boucler tous mes financements? Et si j'ai du déficit, où irai-je emprunter? Qui pourra me prêter à part, oui, les marchés? Et si je dépends d'eux, comment pourrais-je faire pour de leurs exigences parvenir à m'abstraire?
Précisément, monsieur, en n'en dépendant plus. Cette idée vous est tout à fait incongrue, ainsi que vos yeux ronds le laissent apparaître. Estomaqué pourtant, c'est moi qui devrais l'être. Que si simple question, que pareille évidence, particulièrement en ces moments d'urgence, ne soit pas aussitôt le centre du débat. Ce passé des marchés est sorti du pensable, comme si leur présence était indépassable.
Vous qui prophétisez et jouez les oracles, dites-nous donc comment accomplir ce miracle.
D'abord, mobilisez l'épargne nationale et puis reprise en main de la Banque centrale. Faire acheter la dette par tous nos épargnants est d'abord pour eux-mêmes un investissement, mais c'est aussi pour vous de la tranquillité. Circonvenant ainsi l'empire des marchés, vous êtes affranchis de toute leur foucade, de leur diktat inepte, enfin de leur brimade. Vous n'avez qu'à choisir. La finance vorace, ou bien à l'opposé, l'épargne carapace. Faisant des citoyens vos nouveaux souscripteurs, les marchés, à la porte, ne font plus leur malheur.
À jamais, par exemple, c'est une bonne idée.
Monsieur le Président, veuillez, je vous en prie, à ces absurdités, ne pas donner crédit.
Et la Banque centrale? Ne pourrait-elle faire une ou deux autres choses que sauver les bancaires? Et notamment ceci, refinancer l'État, lui ouvrir des crédits et aux taux les plus bas? Je sais bien que l'Europe veut vous en empêcher et ne promeut rien tant que le joug des marchés. Mais au moins parlons-en et ouvrons le débat. Pour qui veut bien les voir, des idées, il y en a.
Vous battez la campagne et vous déraisonnez. Contre elle, ces folies font l'unanimité.
Celle de vos experts, sinistre profession. Il est vrai que le dogme a nommé des raisons la collection des choses qu'il ne veut pas penser. Il faudrait même dire qu'il veut ne pas penser. Vous souvient-il, monsieur, que pour sauver les banques, il a fallu tout faire, que surtout rien ne manque? Se ruant auprès de l'Institut monétaire, elles en ont tiré cette orgie de crédit, volume illimité et surtout prix d'amis, presque 0%. On n'est pas plus aimable avec les fauteurs, avec les coupables. Or voilà que l'État, dont la dette publique n'est que de cette crise le contre-coup logique, n'aura droit à aucune de ces facilités. Le pelé, le galeux, ira sur les marchés, payer du 5% quand ce n'est pas du 10%.
Allons bon, ça non plus. Je n'y avais pas pensé.
Demandez-vous, voulez-vous, jusqu'au bout, savourer l'ironie. Demandez-vous pourquoi la banque resplendit. C'est que vos chers amis, qui empruntent gratis, vous reprêtent aussitôt, délicieuse malice, à des taux usuraires, en guise d'édredon. Et ils vous morigènent, ils vous font la leçon. Avez-vous remarqué cet étonnant toupet qui les aura conduits à se faire les roquets de la sainte rigueur et de l'austérité, pendant que contre vous, sans scrupule, ils spéculent, à moins qu'il faille dire quelque autre mot en hule.
Mais de quelle subversion êtes-vous l'auxiliaire?
J'essaie de regarder, d'avoir les yeux ouverts.
Vos propos sont grinçants et ne mènent à rien.
Je les crois les prémices de votre destin. Car faites le bilan de tous vos manquements et vous verrez venir le grand retournement. Oh non, celui des marchés. Cette aimable bluette qui vous paraîtra-t-elle si le peuple décrète que c'est son tour à lui d'enfin se retourner? Le peuple a le dos large. La chose est entendue. Attention tout de même, qu'accablé il ne rue.
Mais je n'ai pas voulu ça. Que pouvions-nous faire?
C'est votre sorte de péché originel de n'avoir pas voulu briser la citadelle. Il fallait l'investir quand elle était en flammes. Elle était désarmée, au bout de votre lame, quémandant le secours, en haillons lamentables, sans discussion possible avérée responsable. Vous pouviez en faire tout ce que vous vouliez. Qu'avez-vous fait de cette possibilité?
Monsieur le Président, des émeutes partout! Sur les grands boulevards, ils s'en prennent aux banques!
C'est l'insurrection qui vient! Vite, 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 barrons-nous!
D'un retournement à l'autre, l'histoire a ses relèves. Fuyez tant qu'il est temps! Le goudron se soulève!
Eh bien, bravo, merci beaucoup pour cette interprétation. Donc, c'est un texte de Frédéric Lordon, adapté. Et le texte appelle « D'un retournement l'autre ». Alors, merci à vous.
Aux éditions du Seuil, voilà. Comédie sérieuse en quatre actes et en alexandrin.
Donc, juste un petit extrait, hein, on vous conseille d'aller lire le livre entier. Alors, la pièce, en tout cas cet extrait soulève ou répond à pas mal de questions, mais je vais vous en poser encore quelques-unes. Alors, la première, c'est quelle est l'origine de la dette publique? De quand elle date? Jackie?
Bah,
Daniel?
Pourquoi? Ouais,
tu sais pas.
L'origine, disons que ça fait quand même pas mal d'années qu'il y a une dette, mais c'est normal, en fait. Tout système a une dette. Hein. N'importe quel budget, n'importe quel financement marche avec des dettes. Donc, c'est pas le fait que ça existe depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Qui pose problème. Le problème, c'est que depuis effectivement ces 30 ans, cette dette n'a fait que croître.
Voilà. Mais n'empêche que depuis 30 ans, elle a pris une autre tournure, quoi. Je continue mes questions. De combien est la dette française à peu près?
Alors, elle est exactement de 1692 milliards d'euros au deuxième trimestre 2011. Alors, 1692 milliards d'euros, c'est des chiffres, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, on a plutôt tendance à la représenter en pourcentage
du PIB,
du produit international brut, c'est-à-dire de la richesse globale d'un État. Et actuellement, donc, elle représente 86% du PIB.
Donc, il faut encore produire beaucoup pour la combler, quoi. Il faudrait produire pendant plusieurs années sans avoir de dette pour la combler.
Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que si on devait la rembourser en 7 ans, parce que ça, c'est la dette globale, hein, ce qu'on doit globalement, c'est pas ce qu'on rembourse tous les ans. Si on devait la rembourser en 7 ans, c'est à peu près la durée moyenne des remboursements. Cela représenterait donc 12% du produit international brut, ce qui est très loin d'être la faillite.
Du produit intérieur brut,
pardon. Ouais. Donc, si on compare le Japon, hein, qui est un pays quand même assez, avancée par rapport à pas prendre un pays du tiers-monde, le Japon a une dette publique qui est de 230% de son PIB. Donc oui, nous on en est à 86, eux ils sont en 230%. Donc
oui, ça permet de
relativiser. On ne dit pas que le Japon est en faillite et, qu'ils vont tous se faire harakiri. On n'en est pas là. Donc c'est relatif, c'est proportionnel. Alors, il se dit dans les milieux, on va dire, économiques habituels qu'il y a des taux comme ça, que quand on arrive à 60% du PIB, ça commence à être dangereux parce que ça fait beaucoup, trop. Mais ça, finalement, on nous bassine ça tous les jours. On n'en sait rien, finalement. Pourquoi ça serait 60 et pas 65,
et puis,
etc.
Et puis c'est voilà. Dangereux pour qui? Peut-être pour ceux qui détiennent les titres de la dette. Et justement, qui c'est qui détient les titres de la dette française? On sait ça?
Ah oui, alors ça on sait. Hein. Ça, je peux te le dire, puisque... Donc la dette est détenue exclusivement par les grands opérateurs financiers, alors les banques, les compagnies d'assurance, les gestionnaires d'actifs, etc. Alors en France, il y a une petite particularité parce qu'en France, on a un système d'assurance vie qui est assez présent sur les marchés financiers et les assurances vie, enfin tout ce qui, globalement, ce qui représente les assurances vie, on considère qu'ils détiennent à peu près 20% de la dette. Alors, une autre spécificité française et européenne, c'est que la dette française est détenue à plus de 70% par des investisseurs non résidents. Qu'est-ce que ça veut dire, des investisseurs non résidents? C'est-à-dire des gens qui ne sont pas
du
en
pays.
France,
d'accord.
Qui ne sont pas du pays. Donc, ça peut être des fonds de pension, des banques, etc. Alors que si on compare, par exemple, au Japon ou aux États-Unis, la quasi-totalité de la dette appartient... Enfin, est détenu plutôt par des résidents, c'est-à-dire des gens qui sont soit japonais, soit américains, selon que c'est on est au Japon.
Ce qui rend la situation plus stable.
Alors, c'est-à-dire qu'en fait, c'est que si la dette appartient aux Américains, la dette américaine appartient aux Américains, sont propriétaires de leur dette, ils sont propriétaires de leur richesse, en quelque sorte.
Ouais. Et puis, ils ne vont pas jouer, comme pour le cas de
voilà,
la Grèce,
en plus.
À jouer sur le titre.
Tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, quand la dette appartient aux résidents, eh bien, ils ne s'amusent pas à spéculer sur cette dette. Mmh. Alors que quand elle appartient à des banques extérieures, etc., eh bien, il y a toute une spéculation qui se fait, qui joue là-dessus, quoi.
D'accord. Et alors, tu parles de cohérence européenne. Alors justement, un de vos buts à vous, collectif pour l'audit citoyen de la dette, c'est, avant d'obtenir cet audit, que vous allez bientôt obtenir, bien sûr, c'est de faire de la sensibilisation auprès de la population. Et un des outils que vous utilisez, donc il y a du théâtre, mais il y a aussi des films. Et il y a le film Deptocratie que vous utilisez souvent. Et alors c'est un film qui parle de la situation grecque. Vous pensez qu'il y a une cohérence donc entre ce qui se passe en Grèce et en France et ou plus largement européenne? On retrouve les mêmes fonctionnements en Europe. Daniel, tu veux peut-être
C'est-à-dire que la Grèce est l'exemple l'exemple ultime, l'exemple extrême de ce qui se passe un peu partout. C'est-à-dire que les financiers qui possèdent la dette grecque mettent la pression sur le pays pour qu'il sacrifie les services publics, qu'il vende les biens publics, etc., pour pouvoir rembourser la dette. Mais comme la croissance décroît évidemment très, très rapidement à ce moment-là, l'État grec ne peut encore moins rembourser, sans parler du fait que, par un effet automatique, les intérêts de la dette deviennent beaucoup plus importants. Il passe par exemple de 3 à 7, voire à 10.
Donc c'est un exemple ultime, mais enfin, est-ce que finalement ce qui arrive en Grèce, ça pourrait arriver à n'importe quel État d'Europe ou pas, de votre point de vue?
Plus ou moins, plus ou moins,
oui,
parce que
voilà,
c'est-à-dire que les 27 pays européens, si on compare l'Allemagne, la Hongrie, l'Espagne et l'Angleterre, en fait, voilà, il y a des différences très très importantes. Mais il faut quand même voir que globalement, ce sont les mêmes politiques qui sont appliquées dans tous les pays d'Europe, qui sont des politiques de récession sur les services sociaux, sur les salaires, etc., de réduction de ce qu'on appelle la charge sociale, et donc. Automatiquement, ça crée du manque de pouvoir d'achat. Il y a une baisse de toutes les recettes. Ça, c'est général à tous les pays. Et à partir du moment, c'est un budget, c'est simple. Tu as les recettes, tu as les dépenses. Si tu réduis les recettes, obligatoirement, tu es en déficit. Et d'année en année, ce déficit augmente. Et c'est ça, la dette. Quand on parle de dette, c'est ça, en fait. Hein. Ce n'est pas simplement ce qu'on a emprunté pour faire telle ou telle chose. C'est parce que les budgets que l'on vote ne sont pas équilibrés. Donc, il y a un déficit tous les ans. Et ce déficit, il est comblé par une première dette. L'année d'après, on refait un déficit qui est recomblé par une deuxième dette, qui vient grossir la dette, etc., etc. Et ça, on est dans le même schéma quasiment dans tous les pays. Oui. Alors, bien sûr, il y a des différences entre l'Italie, l'Allemagne, etc., quoi. Mais globalement, le schéma est le même.
Le processus est le même. Mmh. Et il ne peut conduire, si rien n'est fait pour changer le système, à une aggravation,
alors,
quel que soit le pays.
Je voulais revenir sur nos copains grecs et endettés. Donc en Grèce, c'est le pays où il y a eu les premiers comités pour un audit de la dette. Ils avaient écrit un texte pour expliquer leur action. Et donc je vais vous le soumettre. Donc je le lis. Ce besoin, enfin dans les explications de l'audit, ils disent « Ce besoin permanent de transparence dans les affaires publiques acquiert à l'époque du néolibéralisme le plus sauvage et de la corruption débridée sans précédent dans l'histoire mondiale une énorme importance supplémentaire. Il se transforme en un besoin social et politique tout à fait vital. L'exercice des droits démocratiques des citoyens, considérés jadis comme élémentaires, est vu par les gouvernants presque comme une déclaration de guerre à leur système par ceux d'en bas. Et naturellement, elle est traitée en conséquence de manière très répressive. L'audit de la dette publique acquiert une dynamique socialement salutaire et politiquement presque subversive. Son utilité ne peut pas se résumer uniquement à la défense de la transparence et de la démocratisation de la société. Elle va beaucoup plus loin puisqu'elle ouvre la voie à des processus qui pourraient s'avérer extrêmement dangereux pour le pouvoir établi et potentiellement libérateurs pour l'écrasante majorité des citoyens. En effet, en exigeant d'ouvrir et d'auditer les livres de la dette publique, et encore mieux, en ouvrant et en auditant ces livres, le mouvement de l'audit citoyen ose l'impensable, il pénètre dans la zone interdite, dans le sein des seins du système capitaliste, là où, par définition, n'est toléré aucun intrus.
Effectivement, se poser la question de la dette, c'est se poser les vraies questions. Parce que on a beau, si les syndicats militent chacun dans leur coin, qui les éducateurs pour avoir des postes, les syndicats pour garder leur place, etc. C'est voué à l'échec, parce que tout ça, dépend. Mmh. Tout ce qui ne va pas, c'est que le système financier ne va pas. Donc, en proposant aux citoyens d'aller y voir d'un peu plus près sur le fonctionnement de ce système, c'est vraiment aller au cœur du système, ils ont raison.
Hein. Peut-être, vu que l'heure tourne, on va parler plus précisément de ce que vous faites à Clermont, quelles ont été vos actions importantes ou les modes d'action, ou quelles vont être vos actions dans les jours qui viennent.
Bah, déjà, peut-être situer un petit peu pourquoi ces collectifs ces collectifs se sont créés. Il y a un bourrage de crâne quoi qui est fait par tous les médias, par tous les leaders politiques, les grands partis, on va dire les partis gouvernementaux au moins, qui culpabilisent les gens. C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, vous avez vécu au-dessus de vos moyens, on a trop dépensé, et bien maintenant il va falloir payer, patati, patata, etc. Donc il y a toute un bourrage de crâne, quoi, une désinformation qui est faite là-dessus. Donc la première des choses, avant quoi que ce soit, c'est déjà d'expliquer ou d'essayer d'expliquer à un plus grand nombre que ce n'est pas vrai, que ce sont des mensonges, qu'on n'a pas vécu au-dessus de nos moyens. D'abord, quand on regarde par rapport au produit intérieur brut, les dépenses sont stables depuis 20 ans. Elles ont même légèrement diminué en 2005-2007, etc. Donc, c'est faux. C'est-à-dire que quand on dit vous avez vécu au-dessus de moyens, on dépense trop, les charges ont augmenté, c'est faux. Les charges sont stables. Qu'est-ce qui a diminué? Ce sont les recettes. Et comme je disais tout à l'heure, dans un budget, si on réduit les recettes et que les dépenses restent les mêmes, automatiquement, on boucle pas la fin du mois ou la fin de l'année. Voilà. Donc c'est déjà ça qu'il faut expliquer aux gens. Il faut aller partout. Donc les collectifs se sont créés d'abord pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un objectif, c'est d'arriver à faire un audit, c'est-à-dire arriver à mettre sur la table la situation, donc, qui détient la dette, c'est quoi les intérêts, les intérêts, pourquoi ces emprunts ont été faits, pour financer quoi, tout ça. C'est tout ça qu'il faut mettre sur la table. Mais la première chose à faire, c'est d'aller expliquer aux gens qu'on leur bourre le mou et que c'est pas inéluctable. C'est-à-dire qu'ils ont le droit, c'est exactement ce que tu disais dans ton papier, c'est reprendre les droits démocratiques de contrôle citoyen et d'aller voir qu'est-ce qu'on nous raconte, pourquoi on nous raconte ça. Est-ce que c'est vrai et qu'est-ce qu'elle est derrière? Donc ces collectifs, voilà, c'est de l'éducation citoyenne, quoi. Donc à travers des réunions, à travers des positions de films, puisqu'on utilise pas mal de films, à travers des interventions dans la rue, à travers des interventions dans les médias, etc. C'est-à-dire, c'est reprendre un petit peu le devant de la scène. Et alors, nous, on aime bien faire la comparaison avec ce qui s'est passé pour le TCE en 2005.
Ouais, parce que tout le monde s'était réapproprié les textes.
Tout le monde s'était approprié parce que 6 mois avant, on nous disait « Oui, mais les Français, ils ne comprennent rien, c'est trop compliqué. Puis de toute façon, tout le monde est pour l'Europe. Donc, tout le monde était persuadé que le oui allait l'emporter, etc. » Et finalement, on a fait une campagne de terrain. Et quand je dis « on », donc c'est tout un tas d'organisations du mouvement social, dont Attac entre autres, mais pas que, on a pris nos bâtons de pèlerin, comme on dit, puis on a été discuter avec les gens et on leur expliquait ce que c'était que le TCE. Et comme les gens, ils sont pas plus cons que la moyenne, et ben ils comprennent quand on leur explique. Et c'est exactement ce modèle-là qu'on voudrait reprendre par rapport au collectif.
Alors, peut-être on fait un tour de vos prochaines actions. Vous faites souvent des réunions, des projections de films. Et là, pour les prochaines, j'ai vu sur votre site internet auditcitoyen63.org que mardi 24 janvier, vous allez avoir une réunion publique et projection donc à Thiers avec Marc Chauvin et Tony Bernard. Le mercredi 25 janvier à 20h30, c'est à Billon. Donc projection de Deptocratie et puis réunion publique avec Marc Chauvin. Et puis le vendredi 27 janvier à 20h30 à la salle des fêtes de Beaumont, donc une réunion avec Denis Durand de la CGT et de la Banque de France. Voilà, donc c'est juste pour une semaine, 3 activités. On voit que vous êtes assez actif quand même. Est-ce que vous voulez préciser d'autres choses sur...
Oui, ben, y a pas mal de rendez-vous, mais en fait, on peut multiplier ces réunions. Quoi. Là, ce sont souvent quelques copains qui prennent contact avec une association, avec une mairie, etc. Mais s'il y a, ça peut être dans une réunion de bureau, dans une entreprise, dans une association interne, etc. Quoi. Même avec, en fait, on a des réunions aussi avec des syndicalistes, parce qu'il est très intéressant d'expliquer à des syndicalistes. Et parce que eux, dans les entreprises, dans leur section syndicale, ils vont ensuite réexpliquer aux gens, finalement, puisque nous, on ne peut pas toucher tout le monde. Donc, moi, je lance un appel, c'est-à-dire que si vous voulez, dans un bistrot, dans votre salon, n'importe où, si vous voulez faire une réunion pour expliquer, pour qu'on vienne discuter avec vous, parce qu'on n'est pas là pour faire des conférences, simplement pour débattre avec les gens, leur amener des éléments, et puis voir avec eux ce qu'ils en pensent, quoi, parce que tout le monde est capable de comprendre ces trucs basiques. Quoi. Alors, tu parlais des actions, ou des réunions, et on a l'habitude aussi de faire des actions visuelles, c'est-à-dire qu'on va dans la rue pour faire voir qu'on est là, parce que c'est important que la population se rende compte qu'il y a un collectif qui existe et qu'il est là et que c'est représenté par des hommes
des
et des femmes,
voilà,
des gens normaux comme tout le monde, etc. Donc on va faire une action là, dans le cadre du festival du court-métrage, parce que bon, il y a le grand événement de l'année qui est le festival du court-métrage à Clermont, donc samedi 28 je crois, si je ne me trompe pas, vers les 15h, donc il y aura une action visuel, on va être dans la rue et se faire voir au niveau du court-métrage.
Bon, merci à vous. Et puis, juste pour terminer, vous invitez tout le monde à prendre contact. Et alors, la première chose à faire, c'est aussi venir aux réunions qui ont lieu les mardis à 18h. Et pour savoir où, il faut se rendre sur votre site auditcitoyen63.org.
Mesdames, messieurs, et chers actionnaires, je tiens à vous dire, pute salope, enculé, couille canard, mal monté, branleur pisseuse, garce suceuse, que le dernier conseil d'administration, fion, con, queue, tête de nœud, sac à bise, sur de mythe, a décidé à l'unanimité, fils de pute, enfoiré, reluqué, mal baisé, foutre des chiens, fumier de lapin, de vous saluer. Grand couillon, merde, chier, con, pine, morue, du cul. À jeudi prochain.
Émission Panthère Rouge jusqu'à 19h, on retrouve Claire qui va nous présenter le mouvement Occupy Wall Street.
Alors, je vais revenir sur le mouvement de Occupy Wall Street en m'appuyant sur un article paru dans Carré Rouge. Donc, l'article a été écrit par Catherine Sauvia en novembre et cela nous donne quelques clés de compréhension sur le contexte, les causes et la forme de ce mouvement.
Alors, donc, quels sont le contexte et les causes? Merci pour ton plan.
Voilà, le contexte, c'est la crise économique qui a suivi la crise des subprimes en 2007. C'est les révoltes des printemps arabes. C'est aussi la mobilisation dans l'état du Wisconsin au printemps après l'attaque du gouverneur républicain sur les employés du secteur public, de leurs droits syndicaux, leurs salaires, leurs acquis sociaux. Donc il y avait eu des dizaines de milliers de manifestants qui avaient manifesté à Madison, donc il y avait déjà eu des manifestations. Et puis aussi c'est tout simplement l'histoire des États-Unis, des mouvements de résistance et de rébellion qui ont ponctué toute l'histoire des États-Unis.
Tu veux dire que les Américains, c'est pas que les Américains de Beverly Hills?
Non, en fait ils se sont battus plusieurs fois dans l'histoire pour leurs droits et leurs acquis sociaux. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc Occupy Wall Street s'est répandu comme une traînée de poudre à travers tous les États-Unis et puis ensuite à travers toutes les grandes villes du monde entier, donc New York, Boston, Montréal, Lisbonne, Athènes, Tel Aviv, Zurich, Londres, Auckland, Melbourne. Donc en novembre, il était à son troisième mois d'existence quand il a été démantelé par la police un peu partout, donc c'était à la mi-novembre. Et ce mouvement est inédit aux États-Unis de par sa durée, donc c'est un mouvement qui a duré plus de 2 mois, sa forme, occupation de lieux publics et ses cibles. Ses cibles, c'est les grandes entreprises de la finance ou de l'industrie. Donc il a commencé le 17 septembre au parc Zuccotti, qu'ils ont rebaptisé Freedom Plaza, en hommage à la place Tahrir au Caire, puisque Tahrir veut dire liberté. Et ici s'est créé un microcosme de sociétés alternatives. Et voilà, malgré le mutisme de la presse, ce mouvement s'est développé dans tout un tas d'autres villes. Donc je pense que là, c'est rien de nouveau.
Et quand tu dis qu'il s'est développé, en fait, c'est les idées qui étaient développées à Wall Street ont franchi les frontières, c'est ça ou...
Oui, et puis surtout la forme de... Plutôt la forme de protestation, le fait d'occuper des villes, d'occuper des places et de créer des mini-villages autogérés avec des nouvelles formes de démocratie, en fait, une véritable recherche de démocratie. Donc, mais pourtant, je dirais, voilà, justement, sur ces mouvements politiques, il y avait un contenu politique qui était assez faible par rapport à ce que peut être des mouvements
autour d'un parti,
ou autour d'une grève pour quelque chose de très spécifique. Et pourtant, ce mouvement a été extrêmement fort. Et je pense que c'est là où c'est intéressant ce que je vais essayer de faire, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens. Donc, tout d'abord, ce mouvement est essentiellement composé de jeunes et de jeunes diplômés. Donc, 3/4 des occupants ou participants seraient diplômés des premiers et seconds cycles universitaires ou en mesure de l'être. Il y aurait un tiers qui serait au chômage. Il y a, par exemple, 1/4 qui se dit démocrate. La plupart ne se réclament pas de parti politique ou se réclament indépendants. Et la moyenne d'âge est 26 ans. Donc, ça n'a pas l'air d'un mouvement très politique. Voilà. Donc, ce qui a poussé ces jeunes, évidemment, enfin, c'est la crise chez ces jeunes. Donc, ces jeunes ont été les premiers victimes de la crise et du chômage. Et comme dans toutes les crises, comme tout le monde d'ailleurs, il n'y a pas que les jeunes. Mais ce qui a été surprenant, c'est que le chômage a perduré. Non seulement ils ont été au chômage, mais ils n'ont pas trouvé d'emploi par la suite. Et quand on est étudiant aux États-Unis, que faire des études, ça coûte extrêmement cher et que c'est un investissement. Là, il n'y a pas de retour sur investissement et ils se sont endettés pour rien.
Sans perspective.
Sans perspective. Mmh. Et, Et même donc ceux qui ont une formation universitaire de premier ou second cycle n'ont quasiment pas connu d'augmentation de salaire depuis l'an 2000. Donc il n'y a plus d'accès aux emplois de qualité, de bonne épargne retraite, de retraite assurance santé. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que les personnes de 25 à 34 ans vivant chez leurs parents est passé de 14,2% en 2007 à 18,6% en 2011. Donc voilà, on est adulte, mais on vit toujours chez nos parents. Et voilà, c'est des points qui...
C'est marrant parce que tout ce que tu me racontes, j'ai l'impression que c'est l'Égypte ou la Tunisie. C'est vraiment très similaire en fait. La jeunesse, le fait que les gens ils ont encore chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas de moyens, le fait qu'ils sont au chômage, le fait qu'il n'y a pas vraiment de partis politiques qui structurent, mais le fait qu'ils n'ont plus rien à perdre, alors ils vont dans la rue.
Voilà, et puis c'est un petit peu la destruction du rêve américain, quoi. C'est-à-dire que même si tu fais tout pour réussir, eh ben tu peux pas. et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est extrêmement fort. Dans les gens qui avaient dans la rue, il n'y avait pas que des étudiants aussi. Il y avait des jeunes, mais pas que. Il y avait des chômeurs, salariés, professionnels, individus, pauvres ou issus de classe moyenne, sans abri, etc. Un mouvement extrêmement composite qui peut, sous certains aspects, ressembler au mouvement anti-mondialisation qu'il y avait pendant le G20. Mais celui-ci se nomme 99%, parce qu'il est censé, il pense représenter 99% de la société américaine. Voilà, jeune adulte, trajectoire politique très diverse, on trouve des anticapitalistes, on trouve aussi des gens qui croient en un capitalisme régulé, on trouve des anciens militaires, des blancs, des noirs, des latinos, même si c'est vrai que la proportion de noirs et de latinos est plus faible parce que il y a énormément d'écarts. En fait, il y a eu tellement un creux qui s'est créé entre les populations noires, latino et c'est plutôt cette population qui a été abandonnée, qui font plus vraiment d'études non plus. Enfin, c'est encore autre chose, mais ils font partie des 99% quand même. Et alors voilà. Alors sur les mots d'ordre de ce mouvement, c'est un mouvement contre le capitalisme financiarisé. Et on a vu ça par les attaques. Ils ont attaqué les symboles les plus forts, donc ils sont allés aux banques de Wall Street et les grandes entreprises américaines. C'est une révolte contre le pouvoir concentré des banques et de la finance. Les dirigeants du secteur financier se sont infiltrés partout au sein de l'appareil d'État, se mettant ainsi en capacité de façonner les décisions en leur faveur. Par exemple, le secrétaire d'État du Trésor vient de la Federal Reserve Bank de New York. Et voilà, il y a beaucoup d'éléments qui sont entrés dans le pouvoir et on comprend assez bien pourquoi ensuite les décisions sont en faveur des banques. Et puis aussi, on a vu que les 1% de la population les plus riches, ceux qui ne font pas partie des 99%, ont vu leur richesse doubler leur part du PIB doubler sur les 3 dernières décennies. Donc je suis incapable de me rendre compte en chiffres ce que ça donne. Ça doit être énorme. Ça doit pas
Donc
être,
les plus riches sont vraiment beaucoup plus
sont
riches.
Sont vraiment beaucoup plus riches. Et cette concentration des revenus est devenue une menace pour la démocratie et le maintien d'une société de classe moyenne que les États-Unis pouvaient se targuer d'avoir créée durant les 30 glorieuses. Il y a aujourd'hui le sentiment croissant au sein de la société américaine que cette explosion des inégalités et la captation des richesses par quelques-uns est devenue illégitime. Cette machine à fabriquer des inégalités ne reflète plus les mérites individuels de chacun, n'a plus rien à voir avec l'égalité des chances chère au père fondateur de la République ou avec le mythe de l'entrepreneur de l'entrepreneur innovateur et récompensé pour son talent et sa prise de risque. La réussite, vient aux banques. Les banques qui ont eu un comportement opportuniste, corrompu, voire criminel. Et voilà, et ça c'est aussi fort dans l'idéologie, quoi. C'est y a plus ce que je disais avant, quoi. Le rêve américain est plutôt détruit et Bref. Et donc, est-ce que tu pourrais conclure un peu, peut-être sur ce que ça présage ou...
Ce que ça présage En fait, j'avais un dernier point, mais bon, le dernier point, c'était aussi qu'il y a eu un livre qui est sorti aux États-Unis qui parle, qui s'appelle The Deb, The First 5000 Years. Et en fait, c'est David Graeber qui a écrit un livre sur les dettes dans le monde et comment les États ont géré leurs dettes depuis toujours. Je revenais là-dessus parce qu'on venait de parler de la dette. Et en fait, son livre a aussi soulevé la question. Voilà, de la légitimité des dettes et du contrôle des peuples à décider ou non de rembourser la dette. Et de ça est revenue aussi la question autour de la démocratie. Enfin,
c'est un livre qui a été important pour les Américains, c'est ça ou...
Il est sorti en 2011 et il a soulevé des questions. Alors, je ne sais pas à quel niveau il a réussi à sensibiliser les gens, mais c'est vrai que c'est... aux États-Unis aussi, la question de la dette
est très présente.
Est arrivée aussi sur quel pouvoir nous, citoyens, on a sur les décisions qui sont prises, sur le fait que effectivement on est en démocratie, mais on n'a aucun pouvoir sur le pouvoir exécutif.
Oui,
en fait,
forcément.
C'est toutes ces décisions, on n'y a pas accès. De vouloir prendre possession des places et d'amener un débat sur la place, c'était aussi une manière de symboliser ce que devrait être la démocratie et voilà, de la pouvoir, le pouvoir au peuple, la parole au peuple
et leurs dettes, on leur rend.
Voilà. Bon, j'ai essayé de résumer rapidement ce qu'il y avait dans ce mouvement. On enchaîne avec une musique.
In Harlem, fans gathered in front of the famous Apollo Theater with one thing in mind.
Émission Compte à Rouge avec nos invités, nos deuxièmes invités, donc les indignés. Nous avons avec nous Guillaume et Thiago, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, bon, désolé, on accélère un peu le rythme. Donc vous êtes indignés à Clermont-Ferrand. Est-ce que vous pouvez expliquer comment individuellement on devient indigné?
Ah bah déjà, je pense qu'avec tout ce qui se passe autour, c'est le phénomène de pensée unique et qu'on n'a que ce monde-là pour vivre, voilà. Et qu'il existe d'autres possibilités de comme croissance, comme société, comme bien-être, comme...
C'est le contexte qui fait que individuellement on se sent indigné. C'est pas automatique quand même.
On voit un chemin sans avenir,
ouais.
Sans bonheur et comme disait Jaurès, chaque individu a un droit à l'entière croissance.
Et donc vous, personnellement, quand est-ce que vous êtes dit je suis indigné, j'en peux plus?
Moi, personnellement, je l'ai toujours aidé.
Thiago, ouais.
Je l'ai toujours aidé parce que ça fait des années et des années qu'on nous bassine avec des histoires. On dit le chômage. Mais en fait, le chômage, il ne sert qu'à détruire de la société, enfin, le système social en France. Ça fait des années que, voilà, parce qu'il y a du chômage, bah, les gens, au lieu de se révolter contre leurs conditions de travail, de se révolter contre tout ce qui ne va pas, ils continuent à s'accrocher à leur petit boulot pourri, mal payé. Et c'est tout le système qui est complètement pourri. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours été indigné, parce que ce système ne me convient pas. Ce système n'est pas démocratique. C'est une horreur, c'est une aberration. C'est, on nous bassine depuis des années avec des histoires bidons, de droite, de gauche, on nous balance, ils divisent les gens, ils ne savent faire que ça. Il n'y a aucun politique à l'heure actuelle qui veut rassembler l'intégralité des Français pour dire « il y a un truc qui ne va pas dans notre société, il faut le changer ». Il n'y en a aucun.
Et donc, être indigné aujourd'hui à Clermont, qu'est-ce que c'est ? Vous êtes très différents tous.
Quelles sont nos actions qu'on fait en Clermont ?
Peut-être, qu'est-ce qui vous relie, quoi ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes ensemble, place de jeu, de tous les samedis ?
Déjà, il y en a ceux qui, bon, y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui sont étudiants, il y en a qui sont lycéens.
Mais finalement, c'est juste des invitations très simples aussi. Sur Facebook, Twitter, qui fait que les gens viennent, place de jeu, ou qu'est-ce que...
Bah, non,
est-ce qu'il y a des...
On est généralement tous les samedis là-bas.
Oui.
Le but, c'est de discuter avec les gens. C'est pas de donner notre point de vue, c'est pas d'imposer notre point de vue, c'est de vraiment essayer de discuter avec les gens.
D'organiser des assemblées populaires.
Voilà.
Pour la démocratie, c'est vraiment cette thématique.
Parce que le problème à l'heure actuelle, c'est que nous n'avons aucun contrôle sur le politique. Nous n'avons aucun contrôle sur nos administrations. À la tête de nos administrations, il n'y a pas d'ascenseur social. Tout au sommet, c'est toujours des gens qui sont nommés. Au Conseil constitutionnel, c'est des gens qui sont nommés. Ou à la Cour des comptes, ce sont des gens qui sont nommés. C'est-à-dire que sinon, on a en place une oligarchie qui se contrôle elle-même. Le citoyen n'a aucun contrôle sur quoi que ce soit.
Et donc, vous êtes indigné à Clermont-Ferrand, mais vous êtes aussi dans ce grand monde des indignés. Quelles sont vos actions à Clermont et quelles sont vos actions plus largement nationales ou internationales ?
Alors sur Clermont, pour l'instant, ça a été créé le mouvement depuis le, on va dire, début novembre. Et donc, il y avait eu les fêtes, tout ça, qui ont, avec le Papa Noël qui a empêché le mouvement de prendre un peu plus. Et donc, en fait, pour l'instant, on a fait des actions pépites, c'est-à-dire que les personnes des Clermontois ou autres gens de la région écrivent leur indignation sur une problématique. Exemple, Clermont va mal, le monde va mal, mais tout le monde s'en fout. Voilà.
J'en avais vu une, c'était il y a trop de cow-boys, il n'y a pas assez d'indiens et d'indiennes. Ça m'a bien plu.
Il y en a qui écrivent pour un monde sans racisme, voilà, d'autres choses. Et il y a plein d'autres problématiques. Après, pour l'instant, on a fait une action deux fois cette action. Après, on va faire une, par exemple.
Le 4 février, il y a une action prévue.
Oui.
Vous pouvez nous m'en parler un petit peu ?
Oui.
De quoi s'agit-il ?
Normalement, il s'agit d'un rendez-vous national des indignés. Pour l'instant, on ne connaît pas du tout la participation. On verra bien. Il y a normalement 200 personnes, voire plus, qui doivent venir. On espère beaucoup plus. On espère surtout que les gens de la région vont
se mobiliser. Donc là, 200 personnes, c'est sur Clermont ?
200 personnes. Sur la France, il y en a qui viennent de Belgique également. Après, c'est toujours pareil. On a choisi Clermont parce que Clermont, c'est au centre de la France. Donc, pour tous ceux qui sont autour de la France, c'est l'endroit le plus proche pour tous, grosso modo. Voilà. Donc, on va essayer de se réunir, on va essayer de débattre entre nous, d'organiser les mouvements à l'avenir. Et on espère que, bien évidemment, les Clermontois, les Auvergnats vont nous rejoindre.
Il y aura des Espagnols. Il y aurait peut-être des Italiens dus à la marche Nice-Rome qui remonteraient sur Paris. Et puis d'autres personnes du Sud. Un peu de...
Et alors, comment suivre vos actions ?
Nous avons un site web qui est occupyclermont.org et nous avons le Facebook, bien évidemment.
Et sur Twitter, vous êtes présent également ?
Oui, normalement, tout ce qui est sur Facebook est sur Twitter et vice-versa. Donc,
Et quels sont les mots-clés à taper ?
Occupyclermont.
Facile.
Facile.
Bon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou...
Moi, j'espère vraiment que les gens vont ouvrir les yeux sur ce qui se passe à l'heure actuelle. On n'a plus aucun contrôle sur quoi que ce soit. Il faut arrêter de croire que les élections vont changer quelque chose. C'est aux citoyens de reprendre le pouvoir, d'imposer le débat politique. Ce n'est pas aux politiques de nous dire ce qu'il va choisir de faire. C'est à nous de débattre dans la rue, c'est à nous de manifester et de dire « cette dette, elle n'est pas la nôtre. Nous ne l'avons pas demandée, nous ne l'avons pas contractée. C'est le politique qui nous l'a imposée. Jamais il nous a demandé par référendum ou autre chose « est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille emprunter sur les marchés privés ?» Jamais ils n'ont voté une loi pour dire « il faut définir un taux maximum ». C'est-à-dire que maintenant, s'ils veulent, ils peuvent nous monter un taux à 20%, on passera toute notre vie, on paiera pour quelque chose que nous n'avons pas contracté.
Merci Thiago, merci Guillaume.
Merci à vous.
Je peux rajouter un mot ?
Oui.
Alors, la loi a été contractée le 3 janvier 1973. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de passer d'un pouvoir à l'État, au banque privée.
Oui, que l'État n'avait plus le droit que d'emprunter aux banques et plus d'avoir sa banque centrale.
Oui, mais le Parlement, sans demander l'avis du peuple,
Oui, tout à fait.
Donc, il faut savoir aussi également qu'il y a quand même des choses qui pourraient être faites. Il y a des établissements financiers publics qui pourraient emprunter la BCE pour résorber un peu la dette. Mais c'est un des établissements qui s'appelle la Caisse des dépôts et consignations. Ça s'amuse à financer des cités de cinéma, ça s'amuse à financer des maisons de disques. Alors que normalement, cette Caisse des dépôts et des consignations, qui normalement gère l'épargne des Français, donc grosso modo, ils travaillent avec l'épargne des Français, ils doivent investir sur les écoles, ils doivent investir sur des biens réellement publics pour le bien public, est en train d'utiliser n'importe comment.
Et donc pour toutes ces questions de fonds, je renvoie donc sur votre site internet Occupy Clermont, également sur le site de auditcitoyen63.org. Merci à vous.
Merci à vous. Merci.
Voilà, vous avez écouté l'émission Panthère Rouge qui se termine. Elle a été réalisée par Lise, Claire et Antoine aux manettes. Merci Antoine. Et Antoine d'ailleurs, c'est toi qui as choisi les morceaux musicaux. Qu'est-ce qu'on a écouté aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui j'ai mis un peu de chansons parce que j'en mets pas trop d'habitude. Donc, mais là j'ai trouvé que avec les débats sur la dette, c'était intéressant de mettre Brigitte Fontaine, surtout son Gilles de la Tourette sur les actionnaires, c'était assez drôle. Et puis là, on est en train d'écouter ce que j'ai mis à la fin tout à l'heure, et tout de suite, c'est Ibrahim Malouf.
Ok, donc nous, on remercie encore grandement tous nos invités, Guillaume, Thiago, Daniel, Jackie et Marc. On se retrouve dans 15 jours.
Le 5 février, c'est ça.
Voilà, ce sera juste après le festival du court-métrage, on aura encore plein de choses à se raconter.
Et on sera en public.
Peut-être bien, à l'Atelier Jaune. Ah oui, venez donc à l'Atelier Jaune, rue de la Treille. Et quoi d'autre ? Ah oui.
Vous pouvez réécouter l'émission sur notre audioblog, donc audioblog.arteradio/pantherrouge.
Nous écrire des mails
à pantherrouge, tout attaché, 93.3 en chiffres, @gmail.com.
Et puis nous retrouver dans 15 jours. Et d'ici là, surtout,
ne lâchez rien.